This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, où quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viol, c'est Alain Vaquier, réalisée par Bruno Bertrand. Pour ce dernier épisode de l'année 1949, nous allons déporter notre regard vers l'extrême est, vers la Chine. Alors pour deux raisons, d'une part parce que c'est là qu'il se passe quelque chose d'absolument nouveau, et c'est là que va peut-être au fil du temps se décider l'avenir de la planète. En tout cas, c'est aujourd'hui ainsi que l'on peut voir les choses. Alors que se passe-t-il en 1949 ? Eh bien, la guerre civile fait rage en Chine et Chinois s'opposent entre eux, mais ils s'opposent également aux Japonais. Alors dans l'échiquier politique international, les Américains sont encore en guerre contre les Chinois en 1949, contre les Japonais pardon, en 1949, et ils réduisent les dernières velléités de l'Empire japonais qui s'effondre. Ceci dit, un corps expéditionnaire japonais est encore présent en Chine. Alors pour éliminer les Japonais totalement, eh bien les Américains, paradoxalement, vont s'allier aux Chinois. Alors la question est simple, vont-ils s'allier aux Chinois nationalistes ou vont-ils s'allier aux Chinois communistes ? Ils envoient un général s'informer sur place et qui constate que effectivement le pays est infesté de nationalistes, mais de nationalistes corrompus. Et ce même général fait un déplacement côté communiste et il est absolument émerveillé par ce qu'il rencontre, ce qu'il voit. Il voit une petite armée mal équipée, mais qui a énormément de courage, qui est très bien organisée. Et il rencontre un homme, un stratège, quelqu'un qui lui paraît exceptionnel. Il s'agit de Mao Tse-tung, bien entendu, qui peu à peu engrange les victoires et gagne du terrain sur les nationalistes. Et c'est ainsi donc que les Américains vont appuyer, c'est le paradoxe puisqu'on sait ce qui s'est passé par la suite, vont appuyer l'armée populaire chinoise, celle de Mao Tse-tung. Ce qui poussera bien sûr les nationalistes, et il ne faudra pas les pousser bien fort, s'enfuir, échapper à l'avancée des communistes. Et le général Chiang Kai-shek, qui est à la tête de cette armée nationaliste, va peu à peu se replier et finir, dans les années qui suivent, 50-51, par totalement disparaître de la Chine territoriale pour se réfugier à Taïwan, qui va devenir la Chine ancienne, cette grande île de Taïwan qui va donc recueillir les nationalistes. Je rappelle que Taïwan est actuellement revendiqué, bien sûr, par la Chine populaire. Alors, donc Mao Tse-tung, très influencé par les idées soviétiques d'abord, puis aussi par un certain nombre d'idées françaises qu'il a apprises à la lecture d'un certain nombre de philosophes, va donc organiser les choses et peu à peu gagner du terrain et envahir pratiquement l'ensemble du territoire chinois, jusqu'à faire adhérer également à cet ensemble le Tibet, qu'il considère comme faisant partie intégrante de la Chine, et dont il dit d'ailleurs, il a cette formule qui est assez succulente d'ailleurs, parce qu'il dit « le Tibet doit être libéré du joug impérialiste britannique ». Pour mieux tomber sous le joug impérialiste chinois, je suppose, mais effectivement, il ne le dit pas. Alors, le 31 juillet, il va y avoir un incident fâcheux, sur le Yangtze, un des fleuves majeurs de la Chine, l'améthyste, qui est un bateau britannique, va forcer le blocus et s'échapper. Et il va y avoir donc un accrochage entre les Britanniques et les Chinois. Accrochage qui va se poursuivre puisque les Chinois vont vouloir évidemment aller jusqu'à Hong Kong. Mais les Britanniques vont défendre à tout prix Hong Kong et garder ce territoire, parce que c'est un œil, selon la théorie toujours britannique, c'est qu'il faut avoir un port. Il n'est pas nécessaire d'avoir le territoire derrière, mais il faut avoir le port, parce que ce port, c'est l'œil sur la Chine. Et donc, ils vont le garder jusqu'à une période récente que l'on connaît, puisque donc, tout récemment, le Royaume-Uni a rendu Hong Kong aux Chinois sous réserve d'un certain nombre d'accommodements. Alors voici une archive qui relate un peu ce qui s'est passé au cours de cette année 49 dans la Chine déchirée par la guerre civile.
La guerre en Chine continue, marquée par l'irrésistible avance des forces communistes. Et les premières images de l'entrée des troupes de Mao Tse-Tung à Shanghai, évacuées par les nationalistes, ont pu parvenir intactes jusqu'à Hong Kong. Shanghai, première étape d'une offensive qui devait se développer avec une rapidité extraordinaire et entraîner dans les premiers jours d'octobre la chute de Canton. Canton, aux mains des Rouges, cela représente une menace directe contre la vieille colonie anglaise de Hong Kong, base militaire de première importance et clé du commerce avec la Chine du Sud. Hong Kong est devenue maintenant une citadelle où affluent les réfugiés venant de Canton et de l'Interland, occupés par les communistes. Dernier avant-poste européen en Chine, la Grande-Bretagne est décidée à le conserver coûte que coûte. À cet effet, au milieu d'une population qui a triplé en quelques semaines, les autorités britanniques se sont efforcées de regrouper les forces chinoises susceptibles d'être encore utilisées afin d'accroître le potentiel militaire du port menacé par la proximité des avant-gardes communistes. En plus de ces unités récupérées, des régiments venus d'Angleterre et qui portent à 40 000 hommes, la garnison de Hong Kong complète le système défensif qui doit assurer la sauvegarde de la ville. L'installation de points d'appui à l'intérieur du pays et des manœuvres quotidiennes auxquelles participent d'importantes forces aériennes signifient à Mao Tse-Tung d'avoir à laisser Hong Kong à l'écart de sa route. Chef de guerre exceptionnel, mais également bon diplomate, le président de la nouvelle République chinoise devra tenir compte de cet avertissement.
Et Mao Tse-Tung, en fait, ne tiendra compte de cet avertissement que, comme toujours, qu'en apparence, puisqu'il va continuer à progresser. Entre le 21 et le 30 septembre de l'année 1949, il va réunir la première conférence consultative politique du peuple chinois. Cette conférence se réunit à Pékin, il la préside, et elle rassemble 662 délégués. Et à l'issue de cette conférence, le 1er octobre, eh bien Mao Tse-Tung proclame à Pékin la République populaire de Chine, alors que le général Chiang Kai-shek, comme je le disais précédemment, s'est enfui et trouve refuge donc à Taïwan, et peu à peu, toutes les forces nationalistes vont s'y retrouver. Mao Tse-Tung devient le premier président de la Chine populaire, de la République populaire de Chine, et l'un de ses lieutenants, Chou Enlai, devient lui premier ministre. Il est à signaler que son deuxième lieutenant dans cette affaire, c'était Deng Xiaoping. Deng Xiaoping qui a suivi un petit peu la progression de Mao Tse-Tung, puis qui est tombé en disgrâce pour revenir à la mort de Mao Tse-Tung et devenir le premier chinois. C'est lui qui disait à propos de la politique, il disait « quand vous avez un chat, vous lui demandez pas s'il est noir ou s'il est blanc, vous lui demandez de chasser les souris ». Voilà, c'était un chinois extrêmement pragmatique, où l'idéologie ne l'avait pas forcément beaucoup marqué. Et donc, la progression chinoise se poursuit. Le 14 octobre, donc, Canton tombe. Le 23 novembre 1949, l'Union soviétique établit des relations diplomatiques avec Pékin et déclare à l'ONU ne plus reconnaître la Chine nationaliste qui, elle, était présente au Conseil de sécurité. Donc, Taïwan se retire du Conseil de sécurité de l'ONU et il faudra attendre de nombreuses années derrière, avec notamment l'appui du général de Gaulle et de la France, pour que la Chine populaire, soit à nouveau admise au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors le résultat, c'est que l'industrie chinoise est totalement ruinée, la Mandchourie, elle, est pillée par les Russes, le réseau ferroviaire est, à, quasiment inutilisable, des années d'inflation du raison de la monnaie, il n'y a plus du tout ni système bancaire, ni monnaie, le monde des affaires, il n'y en a plus. La Chine est revenue presque à une période féodale. Et pour la première fois depuis 1911, un régime unique va dominer l'ensemble de la Chine. Alors, ça aurait pu être une bonne chose. Mao Tse-tung se propose de redresser le pays avec des méthodes qui lui sont très particulières, que l'on va voir se succéder, le retour à la terre, puis la révolution culturelle, puis la campagne Pili-Picon, la campagne de critique généralisée des élites. Toutes ces méthodes n'auront qu'un seul résultat, jusqu'à ce que la Chine sorte de cette logique maoïste, c'est que Mao Tse-tung pourra mettre à son actif à peu près 60 millions de morts. Alors pour un libérateur, pour un grand dirigeant socialiste, je ne suis pas sûr que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais l'histoire jugera. Et l'histoire en matière de musique, eh bien, elle jugera une grande actrice, une grande chanteuse américaine. Il s'agit de Sarah Vaughan, que l'on va surnommer la Divine. Et en 1949, elle enregistre avec une grande formation deux morceaux que je vous propose d'écouter tout de suite.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret and stay. I'm moaning all the morning, morning all the night, and in between is nicotine and not much heart to fight. Coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy. Maybe come
Sarah Vaughan interprétant Black Coffee. On aimerait bien déguster un Black Coffee comme ça avec elle. En 1949, elle a 25 ans, elle atteint une certaine maturité dans la voix, elle couvre plusieurs octaves. C'est la chanteuse de jazz qui a la tessiture la plus étendue, allant du plus grave au plus aigu. C'est pas pour rien de l'appeler la divine, c'est une chanteuse. On disait aussi qu'elle était une chanteuse pour musiciens, parce qu'elle utilisait sa voix, non pas... Bon, évidemment qu'elle chantait des mélodies, mais non pas pour... valoriser la mélodie, mais plus pour valoriser la voix comme un musicien joue de son instrument. Et c'est assez... avec ses enregistrements, on entend bien comment elle se coule avec l'orchestre. Il n'y a aucun hiatus. C'est pas la chanteuse plus l'orchestre, c'est la chanteuse dans l'orchestre. C'est absolument magnifique. C'est l'orchestre de Joe Lippmann qui l'accompagne pour l'occasion ce 20 janvier 1949. Et elle va rester avec cet orchestre pour enregistrer le 7 juillet de la même année, Just Friends.
Just friends, but not like before. To think of what we've been, and not to kiss again, seems like pretending. It isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends, but one broken heart. We cried, and suddenly love died. The story ends, and we're just friends. Two friends, but one broken heart. We loved, we laughed, we cried, and suddenly died. The story ends, and we're just friends.
Ça, si la divine. Alors, toute cette semaine, nous avons insisté sur des valeurs montantes, les trompettes d'avenir. Sammy Davis Jr., dans l'épisode précédent, qui était lui aussi au début de sa carrière. Sarah Vaughan, qui débute, 25 ans. Eh bien, je voudrais vous parler d'un pianiste dont l'astre va pâlir après 1949. Alors, il est né en 1909. Enfin, on croit savoir qu'il est né en 1909 parce que c'était... Son état civil n'est pas très précis. Il venait de Caroline et donc il avait étudié notamment le piano dans l'église presbytérienne Grace. Il était en plus presque totalement aveugle. Il s'appelait Art Tatum.
<t'->
Tatum Paul Boogie. Alors, c'est une composition, bien sûr, de Art Tatum. Alors, c'est un morceau qui est extrêmement intéressant parce qu'il est significatif de du style et de ce que cet homme a apporté au jazz. C'est-à-dire qu'il a un pied dans la tradition, et on l'entend parce que on pourrait dire que c'est une sorte de boogie-woogie assez traditionnel, style stride. Et en même temps, il va relativement loin, il recule les limites de l'invention harmonique, il explore des ressources qu'a le morceau, mais bien au-delà de cette technique boogie-woogie, un peu répétitif, il faut bien le dire. Alors, dans ce morceau, évidemment, on balance sans arrêt entre la suite du thème, avec cet écart entre main gauche et main droite qui crée le tempo du boogie-woogie, et en même temps, de temps en temps, la main droite s'envole et explore des lignes mélodiques tout à fait inédites. Il enregistre ça le 2 avril 1949 à Los Angeles, en public. Il est à un moment où... Bon, il va avoir encore quelques années de gloire, pourrait-on dire, mais il est victime de la nouveauté qui est là, qui frappe à la porte, c'est-à-dire déjà des beaux-pères qui ont un petit peu de mal avec lui, qui ne l'apprécient peut-être pas totalement et qui ne voient pas ce qu'il apporte. Il est aussi bousculé par le cool, le Birth of the Cool qui arrive, Miles Davis, mais aussi... Donc Fats Navarro, des musiciens plus dont on a parlé cette semaine et qui emmène le jazz vers d'autres horizons. Ceci dit, il aura été un passeur. Il aura enclenché quelque chose, en tout cas, surtout dans le jeu pianistique. Et on va l'entendre dans les quelques enregistrements qui suivent. Je vous propose d'écouter le même jour, ce 2 avril 1949, à Los Angeles, un thème fameux de George Gershwin, The Man I Love. Alors Art Tatum aura réussi le miracle d'avoir révolutionné le piano sans tapage, sans insurrection, avec une patience inlassable et une technique absolument monstrueuse. Et s'il n'a pas dynamité le style stride, il n'en a pas davantage fait éclater les codes du swing. Il en a cependant considérablement repoussé les limites en élargissant l'espace harmonique et dans le thème de Gershwin, c'est particulièrement évident. On pourrait parler de révolution silencieuse s'il ne s'agissait pas précisément de musique à propos de ce visionnaire aveugle dont l'influence est encore sensible aujourd'hui. Dardanella de Bernard Black & Fischer, interprété par Art Tatum au piano, solo, le 13 juillet 1949 et enregistré à Los Angeles. Ainsi s'achève ce cinquième épisode de l'année 1949. D'autres années sont à suivre et d'autres histoires.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words... Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.